Chapitre 33. Vincent arpente la minuscule crypte depuis plus d'une heure. Une lanterne dans une main, son couteau dans l'autre, il la traverse, la recoupe en tous sens, en marmonnant pour lui-même. Il l'a même parcourue à quatre pattes, en détaillant au plus près chaque pierre du sol. Pour se donner un temps de réflexion, il s'est accroupi au fond, sans cesser d'observer. Il s'est alors demandé comment Bégel et Robert Houdin auraient procédé à sa place. En proie à une soudaine excitation, il a demandé aux hommes de Charles de soulever une dalle et de creuser en dessous. Mais cela n'a rien donné. Depuis, Charles et ses ouvriers sont assis sur le rebord de l'entrée et le regardent en silence. Il va et vient, s'arrête, repart en arrière et se heurte aussi bien à l'autel qu'au mur brut.
Loin de moi l'idée de vous affoler, Vincent, commence doucement Addison, mais le jour ne va plus tarder à se lever. Vos cochers nous protègent, n'est-ce pas? Contre d'éventuelles attaques, certes, mais pas de la curiosité des habitants et de la publicité que cela pourrait nous valoir. Vincent hoche la tête sans se déconcentrer et revient une nouvelle fois sur ses pas. Il raisonne à voix haute. Tellement de possibilités dans un si petit espace. Soyons pragmatiques. La pierre sous laquelle est dissimulé le coffret possède forcément des caractéristiques qui permettent de l'identifier à coup sûr. C'était nécessaire pour que les jésuites puissent le retrouver. Charles acquiesce en silence pour ne pas troubler sa réflexion. Cavell continue. Chacune de ces dalles, il y en a 278, peut se différencier selon quatre paramètres. Sa forme, la nature de la roche, sa position sur l'échiquier du dallage, et par ce qui est éventuellement gravé dessus. Il tourne sur lui-même et ajoute « Après un examen minutieux, j'ai choisi d'écarter la différenciation par la forme et la roche parce que trop de dalles se ressemblent et que ces critères ne s'avèrent pas assez sélectifs. Reste donc la position et les inscriptions. » Vincent se place dans un angle de la crypte et ouvre les bras. Pour définir efficacement une position, il faut pouvoir s'appuyer sur un référentiel indiscutable. Un coin de l'autel, une direction donnée par la croix, ou des éléments architecturaux intangibles, qui permettent une combinaison de coordonnées stables, telles qu'abscisse et ordonnée. Charles commente. Les parois sont irrégulières, l'autel lui-même ne me semble pas d'aplomb, je ne vois pas vraiment de point de repère fiable.
Vincent opine. J'en suis arrivé à la même conclusion. À cet instant, un des cochers pénètre dans la crypte et s'approche de Charles. Il lui murmure quelques mots à l'oreille. Son patron répond brièvement et l'homme ressort en toute hâte. Vincent l'a remarqué. Un problème?
Rien de plus que ce que nous savons déjà. Le temps presse. Ne vous déconcentrez pas. Vous disiez que la position des dalles n'était sans doute pas la meilleure piste.
Exact. Restent les gravures. Certainement notre hypothèse la plus prometteuse. Elles sont variées, réparties un peu partout, mais cela représente tout de même plus de 100 possibilités. Vincent inspire profondément. Les relever toutes et fouiller dessous constitue un travail de titan que le délai nous interdit. Faisant quelques pas, il se penche sur l'une des pierres. La plupart de celles dont les inscriptions sont déchiffrables proviennent de sépultures datées entre la fin du XIVe et le début du XVIe siècle, tout à fait cohérentes avec la date présumée de l'enfouissement. En effet, les plus anciennes ne sont plus lisibles. L'usure, l'imprécision des caractères gravés. Pour gagner du temps, j'ai choisi de les négliger pour me concentrer sur le probable. Mais le probable n'est pas le possible. Maintenant que j'ai achevé d'analyser celles que je parviens à lire et qu'aucune ne semble receler de signes codés ou de références, je me dis que j'ai peut-être loupé quelque chose. Réfléchissant toujours, il désigne la pierre de marbre blanc qu'il a fait relever plus tôt. Celle-là avait attiré mon attention parce que le nom du défunt n'est plus lisible, alors que, paradoxalement, la mention au-dessous l'est, ainsi que la date. Pourtant, il n'y avait rien dessous. À mon grand regret. Il poursuit son examen approfondi des gravures.
je suppose que l'indice qui marque le bon emplacement sera relativement évident, pour peu que l'on sache ce que l'on cherche. Qu'est-ce qui vous permet de le croire ? La pièce elle-même était secrète. Avant d'atteindre la dalle, il fallait découvrir la crypte. Il n'y avait donc pas lieu de compliquer sa dissimulation autant que si elle s'était trouvée dans un lieu public. Cavell s'arrête soudain sur une pierre très usée parmi les plus vieilles. La gravure ne comporte qu'un chiffre romain. Il s'agenouille et l'effleure de la pointe de son index. Cette inscription semble bien plus ancienne que la plupart des autres, au point d'en être hors course, mais une idée vient de traverser l'esprit de Vincent. Les jésuites auraient très bien pu faire appel à quelqu'un comme Eustasio, capable de vieillir les matériaux au point de tromper n'importe quel observateur. Il passe le doigt le long des caractères en creux pour s'assurer de ce qui est gravé. S-J-M-D-X-X-X-I-V. Il se redresse. Si on considère les 7 dernières lettres, cela pourrait correspondre à une date. Et les 2 premières ? Un code. S-J, peut-être Societas Jesu, l'appellation initiale de la Compagnie de Jésus. Pourquoi pas ? Suivi du millésime 1534. C'est bien cette année-là que Loyola et ses compagnons ont décidé de la création de l'ordre. Charles confirme. Le 15 août. À l'extérieur, le son d'une puissante corne retentit. Charles et ses hommes s'agitent. Pas de panique, les rassure Vincent. C'est le signal de la journée qui démarre sur le chantier du Sacré-Cœur. Il désigne la pierre auprès de laquelle il est agenouillé. S'il vous plaît, messieurs, aidez-moi à soulever cette dalle-ci. Si mes déductions sont justes, nous n'en aurons plus d'autres à manipuler. Armés d'un pied de biche et non sans mal, les 3 hommes décollent la pierre et sondent la terre sèche à l'aide de fines tiges métalliques. Retroussant ses manches, Charles les aide à dégager le remblai au fur et à mesure. Leur chantier est bien plus modeste que celui qui se déroule à seulement quelques dizaines de mètres de là, mais il produit vite des résultats. « Je bute sur quelque chose », annonce l'un des ouvriers en retirant sa sonde. Tous s'activent à déblayer la terre poussiéreuse. Vincent finit par dégager une forme rectangulaire de la taille d'une boîte à courrier, enveloppée de plusieurs couches d'un épais tissu. Asséchée par le temps, les premières partent en lambeaux, mais dessous, la toile est intacte. Il en sort bientôt un coffret de bois sombre. Il le manipule avec un soin extrême et souffle dessus pour chasser les dernières fibres restées accrochées. Le couvercle est marqué de 3 lettres. I-H-S, surmonté d'un trait bombé. Dessous, un lys stylisé. Un soleil encercle le tout. Le premier symbole de la Compagnie de Jésus. Libéré de son enveloppe, même après des siècles, le bois dégage un parfum que Vincent reconnaît immédiatement. « Du bois de Cade », affirme-t-il en le humant. Charles l'observe. Vincent relève le visage et croise son regard. Avec naturel, il lui tend leur découverte. « Tenez. Vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il contient ? Ce n'est pas ma mission. Il faut réussir de petites choses avant d'en tenter de grandes. » Charles sourit. Par la toiture éventrée, les premières lueurs de l'aube illuminent la nef.